C'est un peu chaotique, mais on va y arriver. C'est assez drôle que ça arrive avec vous, César. Bonsoir, La Relève, c'est comme toutes les semaines, 30 minutes en compagnie d'un jeune talent d'aujourd'hui et forcément de demain. Aujourd'hui, on va parler de yoga et de dépression, voyager de Russie en Floride. Mon invité est écrivain. Bah écoutez, bonsoir. César Morgievitch, pardon. Vous publiez votre premier roman, Mon petit lapin, aux éditions Gallimard. Et pour commencer, je voulais savoir s'il fallait que je vous salue d'un bonjour, mon pauvre lapin, ou si vous préfériez tout simplement un petit Ave César.
Ah non, écoutez, Ave César, c'est ce qu'on m'a fait le plus, je crois, quand j'étais à l'école primaire. Ah, ensuite, non, ça a changé, c'était plutôt la salade César, mais bon, Ave César, là, je crois que c'était un peu le truc.
Ça, on voit l'évolution. Ouais, quand on grandit, on voit les gens, la finesse dans la blague. Je précise juste que je pose la question, car donc votre premier roman, César Morgievitch, s'appelle Mon pauvre lapin. S'il y a écrit roman sur la couverture, c'est que c'est un roman, mais est-ce qu'il y a une part d'autobiographie dedans?
Bien sûr, je pense que c'est toujours le cas. Enfin, bon, ça, c'est un peu de la langue de bois, mais je pense que oui, bien sûr, il y a une part de. Je pense que ma vie est. C'est quand même mon matériau principal, je pense, comme pour tout écrivain. Et ensuite, ce que j'aime, c'est de transformer tout ça en comique, en romanesque, en personnage, en chose qui parle à tout le monde, plus que ma petite vie. Hein.
Comment vous vient l'idée, justement, de faire d'écrire un roman sur un personnage qui n'est absolument pas un héros, sur un jeune homme angoissé pour qui tout est compliqué? C'est l'anti-héros parfait. Là, on est.
C'est aussi en grande partie le livre que j'aurais aimé lire, évidemment. Enfin, vous allez me dire évidemment, mais parce que.
Moi, je dis rien, j'écoute.
Non, mais parce que précisément, c'est des héros qu'on voit très rarement. Des mecs comme ça, un peu nuls, quoi. Qui ratent pas mal de trucs, qui n'avancent pas, qui sont paralysés de peur.
Il n'est pas vraiment nul. Vous le trouvez nul, vous?
Non, il n'est pas nul, mais bon, au regard des standards communément admis, il est pas, il s'en sort dans un peu de domaines quand même, à part l'apprentissage des horaires de train.
Ouais, la création de villes imaginaires.
Ouais, ouais. Et ouais. Bon, il plaît aux femmes d'un certain âge, enfin, ce genre de choses, mais ça, c'est pas des domaines quand même porteurs.
C'est pas porteur, vous trouvez. Et moi, je le trouve moyen, normal, comme aurait dit un ancien président de la République, mais il a une famille extravagante. Alors, du coup, ça qui est bien quand on prépare une émission, on va chercher dans le dictionnaire ce que veut dire extravagante, très excentrique, qui agit contre le bon sens. Ah, ça vous paraît bien leur correspondre?
C'est pas mal. Contre le bon sens, la grand-mère, peut-être pas. Je dirais qu'elle a quand même son bon sens à elle. Et surtout, disons que son bon sens quand même se résume à trouver sa bouteille de Bourgogne pour le soir et à pouvoir regarder ses trucs sur son ordinateur tant qu'elle veut. Enfin, elle me paraît plus avoir les pieds sur terre finalement.
Ah, elle passe quand même son temps à lire toutes les fake news qu'on peut trouver. Si vous avez lu cet article, vous aimerez aussi. En général, elle tombe sur les pires.
Ouais, c'est ça, c'est l'histoire de, je sais plus ce que, oui, des panthères. Enfin, ouais. En revanche, peut-être
les parents. Les parents sont. Peut-être plus décalé.
Les parents sont peut-être plus décalés. Le père est assez absent, un peu à côté de la plaque, finalement, hein, comme son fils. Hein. Et la mère, très, 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 très aimante.
Trop
aimante et pas toujours quand il faut. Ni...
C'était une question quand j'ai dit trop, hein. C'était pas une obligation.
Oui,
hein.
J'ai répondu oui. Oui, c'est toujours bien, hein. C'est toujours bien d'être aimant. Mais bon. Peut-être parfois, il ne faut pas le montrer.
Il y a cette phrase, c'est dans un film de Christophe Honoré, « Aime-moi, mais aime-moi mieux ».
Ouais, c'est ça.
C'est
ouais,
peut-être c'est pas un petit
problème
aimer, de qualité.
Peut-être parfois en silence.
Ouais, et puis elle est quand même très branchée, tout ce qui est parallèle, elle aime, elle est obsédée par... alors, je ne sais plus à quoi elle soigne tout, j'ai oublié, pardon.
Ah, il y a l'homéopathie.
Elle a une passion pour le yoga, pour tout ce qui est les sciences parallèles, les mondes alternatifs en tout cas.
Oui, a priori, enfin bon, je veux dire, ça peut faire des gens très bien, c'est peut-être.
Ah non, j'ai pas dit que ça c'est des gens
très
bien.
C'est son folklore à elle qui contribue aussi à. Qui occupe une grande place dans la relation qu'elle a avec son fils, parce qu'elle lui conseille sans cesse de l'homéopathie. Pour tous ces.
Ouais, il doit aller à l'école avec une petite trousse homéopathique en permanence.
Ouais, à la place de.
Qu'on se dise tout de suite, votre livre est très drôle. Le personnage principal ne se ménage pas, pratique l'autodérision en permanence.
Ouais,
ça rappelle d'ailleurs le meilleur de Woody Allen. Mais pourquoi vous avez choisi ce ton-là?
En fait, c'est assez naturel.
C'est votre manière d'être dans la vie? Vous êtes quelqu'un qui est dans l'autodérision? Parce que vous êtes quelqu'un de pas facile, je dois dire, parce qu'on trouve rien sur vous.
Ouais.
Il n'y a rien nulle part.
Bah oui, mon empreinte digitale est assez réduite. Non mais Sur le taux d'horizon, je pense qu'en fait c'est plutôt ma manière d'être, je sais pas, mais en tout cas ma manière d'écrire, je vois pas comment je pourrais automatiquement, dès que j'écris, ça devient un peu comme ça, quoi.
Et vous lisez qui, comme quels sont les auteurs que vous aimez lire?
En ce moment, j'ai énormément de mal à lire, pour vous dire.
Non, mais en général, vous avez lu avant quand même. En fait, enfin, vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein, mais...
Si, bien sûr, je peux répondre.
Je sais pas, on pense à des Américains plus qu'à des Français, et éventuellement Jean-Paul Dubois, mais qui est plus sur la version
oui,
dépression.
On a déjà... Oui, bien sûr. Mais en fait, alors vous allez me trouver bizarre, mais
que...
j'ai quand même beaucoup de plaisir à lire les grands classiques du 19e siècle, tous les. Enfin, Zola, Stendhal et tout, c'est quand même un peu ma.
C'est ça que vous lisez tout au quotidien ?
Au quotidien, oui.
Non, enfin, c'est ce que vous aimez lire.
C'est ce que je pense que c'est ce que je préfère, ouais, jusqu'à présent.
Le rire, c'est pas aussi un remède contre l'angoisse ?
Bien sûr, et
ça évite la dépression, je pense, de rire aussi, de savoir rire.
Disons, en fait, je pense que quand on arrive déjà à rire de son angoisse, c'est quand même qu'on a franchi un certain pas dans sa capacité à la gérer. Au début, c'était... Enfin bon, parce que vous avez cru comprendre que je suis...
Il y a quelques points communs, on va dire.
Il y a quelques points communs sur le thème de l'angoisse entre moi et mon personnage. Au début de ma vie de grand angoissé, j'avais plus de mal à en rire. Maintenant, ça va mieux.
C'est ouais. Le jour où on remplace le Xanax par le rire, c'est le jour où on commence à aller mieux.
Je suis jamais allé au Xanax.
Ah bah, tout va bien. Alors, c'est peut-être un moyen aussi peut-être de protéger les gens dont on parle.
Oui, là, vous avez raison.
Parce que ça pourrait être un livre très revanchard, très violent.
Ça, c'est vraiment quelque chose de... Un parti pris aussi, que ce soit toujours, comment dire, pour pas faire un livre de plainte, enfin, que ce soit pas que ce soit des cahiers de doléances, que le narrateur, quand même, prenne une grande partie des torts sur lui. Je pense que c'est essentiel. Et pas, comme vous dites, taper sur son entourage, parce que c'est pas très intéressant. Et puis parce que ça empêche d'être drôle.
Il faut être drôle. C'est une forme d'élégance dans la vie, peut-être.
Il faut être drôle et puis...
Si on peut, en tout cas.
Ça fait
si on...
bien, quoi.
Votre personnage, donc César, il s'appelle comme vous, il a beaucoup de mal à trouver sa place depuis toujours. Vous écrivez lui, j'adore cette phrase, « Ma glace était bonne, mais elle ne l'était pas autant que le bonheur de faire partie d'un groupe.
Ouais. »
Ça a été quelque chose... Enfin, pour lui, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais faire partie d'un groupe, c'est un rêve.
C'est un rêve et après, souvent, quand il devient réalité, on est déçu. Enfin, je pense qu'il a l'air...
Alors qu'on n'est jamais déçu par une glace, franchement.
C'est ça. La grand-mère vous donnerait raison.
Non, je suis de grand-mère.
On voit bien dans sa petite évolution que dans sa toute petite jeunesse, il est vraiment très seul, il rêve de tout ce qui est à plus de deux. Et finalement, quand au lycée ou dans sa vie d'étudiant, il arrive à intégrer des groupes... Soit il trouve pas sa place, soit il s'ennuie, c'est pas la joie, quoi.
Enfin, il rêve, mais quand il y a des gens avec lui, il est pas toujours très content. Je pense notamment quand arrive son demi-frère Antoine, si ma mémoire est bonne.
Oui, c'est ça, il y a groupe et groupe, parce que son demi-frère Antoine vient briser son osmose avec sa mère, parce que sa mère a beau le bourrer d'homéopathie, elle est quand même son idole. Et donc l'arrivée comme ça... brutal d'un demi-frère, d'un demi-sœur est très mal vécu. Mais ça, je pense qu'il n'est vraiment pas le seul. En général, un demi-frère, une demi-sœur sont des choses assez mal vécues, je pense. Assez largement mal vécues.
Alors, vous m'avez dit que vous lisiez les grands auteurs du 19e. Moi, je vais vous faire écouter un auteur du début du 20e siècle, lu par Daniel Mesguich.
Et à peine j'avais frappé mes coups que j'en entendais trois autres, d'une intonation différente, ceux-là. Emprunt d'une calme autorité, répétée à deux reprises pour plus de clarté, et qui disait « Ne t'agite pas, j'ai entendu. Dans quelques instants, je serai là. » Et bientôt après, ma grand-mère arrivait. Je lui disais que j'avais eu peur qu'elle ne m'entendît pas ou crût que c'était un voisin qui avait frappé. Elle riait. « Confondre les coups de mon pauvre loup avec d'autres. Mais entre mille, sa grand-mère les reconnaîtrait. Crois-tu donc qu'il y en ait d'autres au monde qui soient aussi bêta, aussi fébrile, aussi partagé entre la crainte de me réveiller et de ne pas être compris ? Mais quand même elle se contenterait d'un grattement, on reconnaîtrait tout de suite sa petite souris. Surtout quand elle est aussi unique et à plaindre que la mienne. Je l'entendais déjà depuis un moment qui hésitait, qui se remuait dans le lit, qui faisait tous ses manèges. Elle entr'ouvrait les persiennes. À l'annexe, en saillie de l'hôtel, le soleil était déjà installé sur les toits. Comme un couvreur matinal qui commence tôt son ouvrage et l'accomplit en silence pour ne pas réveiller la ville qui dort encore et de laquelle l'immobilité le fait paraître plus agile. Elle me disait l'heure, le temps qu'il ferait, que ce n'était pas la peine que j'allasse jusqu'à la fenêtre, qu'il y avait de la brume sur la mer, si la boulangerie était déjà ouverte, quelle était cette voiture qu'on entendait. Tout cet insignifiant lever de rideau, ce négligeable introït du jour auquel personne n'assiste, petit morceau de vie qui n'était qu'à nous deux, que j'évoquerais volontiers dans la journée devant Françoise ou des étrangers en parlant du brouillard à couper au couteau qu'il y avait eu le matin à 6 heures, avec l'ostentation non d'un savoir acquis, mais d'une marque d'affection reçue par moi.
Oui, on va couper, je suis désolé, les phrases sont longues, c'est du Proust évidemment, à l'ombre des jeunes filles en réduire Proust, la phrase est longue, j'ai un peu honte, à l'ombre des jeunes filles en pleurs, des jeunes filles en fleurs, pardon. C'est un texte lu par Daniel Mesguich et on peut retrouver l'ensemble publié par Frémaux et Associés. C'est un écrivain auquel vous avez pensé quand vous avez commencé à parler de grand-mère, d'un narrateur avec une relation particulière à cette grand-mère?
Alors c'est drôle parce que justement quelques temps avant de me mettre à écrire, j'ai commencé 3 fois à lire Proust, j'ai arrêté 3 fois et j'ai... Bon,
c'est ce que disait Barthes, hein, on ne saute jamais les mêmes passages quand on le relit.
C'est pas mal, c'est pas mal. Et il y a quelque chose qui m'a... Enfin évidemment le personnage de la grand-mère m'a beaucoup plu. Mm-hmm. Et il y a quelque chose qui m'a... Bah, alors peut-être je m'éloigne un peu de ce que vous voulez dire,
c'est
mais
brave.
Ça me fait penser, quelque chose qui m'a traumatisé avec sa grand-mère. C'est alors je crois que c'est dans le, je sais plus si c'est dans le deuxième ou dans le troisième, mais à un moment où elle tombe malade et un médecin vient et lui dit qu'elle est hypochondriaque et que il faut pas s'inquiéter et que tout va bien, donc en lisant ça j'étais ravi, je me disais super, et quelques pages plus loin en fait elle a un AVC ou quelque chose comme ça et elle meurt très rapidement.
Ah oui, pour un angoissé hypochondriaque, c'est terrible à lire. Ah oui, je comprends très bien. On va revenir sur la famille recomposée. Vous allez vraiment à rebours de tous les discours sur le bonheur de cette famille recomposée. Votre personnage en développe une vision que je crois beaucoup plus juste, où il dit « j'ai l'impression d'être nulle part chez moi, il est... » Non, attendez que je retrouve juste. La famille recomposée, il faut reconnaître, ça vous apprend bien la cohabitation polie. Polie et un peu crispée, il faut s'adapter. De temps en temps seulement, j'étais perturbé, je ne comprenais plus qui était cet individu en face de moi, me demandant de lui passer le sel, et alors à ces moments-là, il m'arrivait de mettre les pieds dans le plat. »
Bah c'est vrai qu'on entend beaucoup la famille recomposée, c'est super, c'est moderne. Mais quand on est un gosse, c'est un peu catastrophique. Enfin, on a quand même envie d'être stabilisé dans un endroit et que tout aille bien, je pense. Ceci dit, le revers de la médaille, c'est qu'on apprend, comme je l'ai écrit, à composer
avec les autres, à composer.
Ouais, divers environnements et ça apprend peut-être un peu l'aventure.
Vous savez pas. Votre personnage dit qu'il n'arrive pas à se révolter non plus.
Se révolter politiquement, vous voulez dire?
Non, il y a un moment... Non, j'ai noté une mauvaise page, donc on continue dans cette émission un peu chaotique, je suis désolé.
On peut meubler un
moment. Non, on ne va pas meubler. Voilà, il dit, je ne me suis jamais rebellé, j'arrive plus à lire aujourd'hui. Même là, je ne me suis jamais rebellé, je m'adaptais, même lorsque ma mère a décidé à mon plus grand effroi, oui, de quitter le 11e pour s'installer à Montreuil.
Ouais. Bon, c'est pas très politiquement correct comme phrase, ça fait un peu...
On a les rébellions qu'on peut, mais ouais, en tout cas, il accepte, il veut pas être un problème. Alors qu'on sent bien qu'à l'intérieur, ça bouillonne, que rien ne va.
Oui, c'est vrai, c'est quelqu'un quand même... c'est aussi un livre sur la difficulté à exprimer ce qu'on ressent, qui n'y arrive quasiment jamais, en fait. Hein. Enfin, quand il est angoissé, il le dit pas. Quand il a envie de se barrer, il le dit pas. Quand il est mal à l'aise, il le dit pas. Simplement, il le subit intérieurement. Et toutes ces émotions... là dont on parle, horrible, lié à sa sensation d'être arraché de sa mère et de son petit cocon, il les garde pour lui.
Alors, votre livre se termine par un voyage en Russie, on va à Saint-Pétersbourg. Finalement, c'était mieux Saint-Pétersbourg que Barcelone, parce que c'est un gag récurrent pendant tout ce récit-là.
Oui,
dès qu'il a un problème, il se dit oh, « j'aurais dû aller à Barcelone ». Quand il arrive et qu'il voit qu'il fait froid, il veut retourner à...
Il avait vraiment une envie de. Pour cette, c'est une année à l'étranger, quoi, enfin, un truc, un Erasmus. Il avait vraiment envie de se démarquer.
Et. Oui, ça commence quand il veut devenir espion et qu'il prend.
C'est ça. Il avait envie de quelque chose de romanesque et donc il se dit la Russie, personne n'y va, je vais y aller. Et évidemment, quand il arrive sur place et qu'il voit la résidence soviétique atroce et qu'il n'y a rien à bouffer, il s'est dit j'aurais mieux fait d'aller en Espagne. Finalement, je pense que ça lui convient bien. C'est là qu'il fait. Je vais pas tout raconter, mais c'est là qu'il fait quand même des pas
là,
majeurs.
Là, pour le coup, peut-être pour la première fois, il arrive à vivre avec un groupe.
Il y arrive peut-être parce qu'il est loin de ce qui l'entrave dans sa vie parisienne. Je sais pas, peut-être la présence. De la famille, peut-être le fait d'être loin, il y a moins de codes. Enfin, en tout cas, il s'en sort mieux.
Votre livre, c'est un peu le contraire du film Le Berger espagnol ou les poupées russes, puisqu'on parle de Barcelone et de Saint-Pétersbourg. Est-ce que c'est aussi toute cette imagerie-là d'une jeunesse joyeuse, unie, que vous vouliez, l'abattre peut-être, mais en tout cas prendre le contre-pied de celle-ci?
En fait, ce que j'aime bien, c'est quand même montrer l'envers du décor de façon générale, que ce soit là sur tous les sujets qu'on vient d'aborder. Parfois, il y a quand même cette image d'Épinal. De la famille recomposée, et là, des vacances super fun.
L'année de césure, on va s'amuser, faire la fête.
On part en césure qu'on n'est pas angoissé. Quoi. Et je pense que ce truc de monter l'envers du décor, on le retrouve aussi sur les histoires à Sciences Po, toutes ces choses qui ont la réputation d'être géniales, et qui finalement...
Ils sont contents à Sciences Po, vous savez ? Ils ont lu votre livre, ils vous ont dit si ce qu'ils en pensaient, pas encore.
J'ai très peu de contacts.
Est-ce que on peut dire que votre livre reprend la fameuse phrase de Nizan, j'ai 20 ans et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie?
Ouais, ça c'est vraiment un truc. Moi, à titre personnel, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Mais en même temps, chaque année avance.
Vous n'avez pas beaucoup plus, visiblement. mais déjà, les quelques années de plus.
À la limite, 20 ans, c'est encore vivable, mais vraiment, 13, 14, il y a de quoi se jeter par la fenêtre.
C'est l'adolescence qui est difficile.
Ouais.
Alors, votre personnage adore danser, donc on va écouter un peu de musique et on va pouvoir danser dans le studio avec tous les gens qui sont à la réal. On écoute maintenant. C'était Rosalia avec The Weeknd. La femme, j'avais dit, la chute est rude, mais c'est vrai qu'elle est rude, cette chute-là.
La relève sur Radio Campus Paris.
On est toujours avec César Morievitch pour son premier roman, Mon pauvre lapin, aux éditions Gallimard. Ça vous a donné envie de danser?
Oui, on a dansé, on peut dire.
J'étais à fond. Vous aimez vraiment pas ça?
Non, c'est des choses qui se défont avec l'âge quand même. Des angoisses qui se défont.
Alors, si on revient à votre roman, on le dit depuis le début, la part autobiographique, la part non autobiographique, et on n'est pas là pour faire pour faire le départ entre l'un et l'autre, entre l'une et l'autre plutôt. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui sont devenues écrivains pendant le confinement, puisque lui écrit pendant le confinement depuis la Floride où il est parti se réfugier avec sa grand-mère?
Non. Bah, je pourrais le dire, ça, pour le storytelling, ce serait bien, mais...
Non, c'est un truc d'écrivain que vous avez trouvé pour raconter cette histoire.
C'est un truc d'écrivain. En fait, il se trouve que je me suis réellement retrouvé confiné, avec ma grand-mère, et que c'était une question de salut que de faire qu'écrire, quoi. Donc ça, c'est vrai. Mais je me suis mis à écrire quelques temps avant le Covid et tout ça, au moment où je suis parti de Sciences Po.
Vous aviez envie d'être écrivain depuis longtemps?
En fait, non. Ça, c'est vraiment des trucs un peu psychanalytiques, peut-être.
Moi, je ne consulte pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est pas grave, allez-y.
Non, en fait, j'y avais jamais pensé de ma vie, en tout cas consciemment. Enfin. Mais vraiment jamais, jusqu'au jour où tout d'un coup, je me suis dit, en fait, je vais écrire.
Alors, votre personnage, il a cette vision du confinement, ça doit être une des rares personnes au monde à pouvoir dire ça. En fin de compte, c'est triste à dire, mais la situation actuelle m'arrange plutôt. Comme il n'y a plus ni bar, ni boîte, ni soirée au moins, je ne me sens plus coupable de ne jamais y aller. C'est la suspension officielle de tout ce que je suis. Tout comme j'ai toujours rêvé qu'un pouvoir un peu autoritaire décrète l'interdiction de la sexualité, ce serait génial. Je dirais à tout le monde, et non, que veux-tu, depuis l'interdiction, je n'ai plus de vie sexuelle. Alors c'est ça qui est drôle, c'est qu'il est hypochondriaque, mais alors le Covid, il... pas très peur finalement.
Oui, parce que en fin de compte, c'est une sorte de rêve pour lui de plus avoir à se justifier de ne pas participer à toutes les réjouissances sociales. parce que finalement, c'est-à-dire non seulement il souffre, mais il a honte de souffrir. Ça, c'est, je pense, un thème récurrent. Et ça lui coûte beaucoup de devoir dire aux gens qu'il ne va jamais en soirée, jamais en boîte.
Il fait semblant d'y aller.
Il fait semblant d'aller en soirée.
Allez-y.
Là, il a une bonne excuse. Quoi. Voilà,
dans votre livre, tous ceux qui ont un peu de difficulté en soirée sont enfin volontiers. Moi, j'aime beaucoup quand vous expliquez comment ces stratégies en soirée pour faire croire qu'il parle à du monde et comment il passe son temps à marcher d'un endroit à l'autre, à se cacher.
Évidemment, ça, c'est vraiment des choses que...
Que vous avez observées autour de vous.
Que j'ai observées et pratiquées et que, en fait, tout le monde fait. C'est des choses dont on parle rarement. Alors que quand même, faire semblant de chercher quelqu'un, je pense qu'il n'y a pas une personne qui l'a jamais fait. Ou aller se resservir des verres juste parce qu'on est angoissé et qu'on a personne à qui parler. Et je pense qu'il faut, il faut davantage en parler de ces petites stratégies.
Mais oui, en tout cas, ça déculpabilise. Ouais. Il y a un moment, vous écrivez page 203, on va citer, j'ai essayé de bien lire pour une fois. « Même Régine me téléphonait pour savoir où j'en étais. On a besoin de jeunes comme toi. C'est à vous, les jeunes, de faire bouger les choses et toutes ces conneries. Comme si les jeunes étaient des gens différents, une humanité meilleure, alors que ce sont évidemment autant des salopards que les vieux. Ouais. » Vous osez écrire ça? Vous l'assumez?
Oui, on en parlait avant le début de l'émission. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Cette sorte d'injonction aux jeunes à changer le monde, alors que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on a envie de faire quoi que ce soit. Enfin, on peut aussi être jeune et s'en foutre. Et ça, je pense que c'est un message... c'est pas du tout dans l'air du temps, mais... On me l'a beaucoup dit, moi.
Tous entendu ça.
Ouais, c'est ça, on m'a beaucoup dit, t'es jeune, donc c'est à toi. Et je pense qu'on a le droit de se concentrer sur ces petits problèmes.
On a le droit de se concentrer sur ces névroses. Et oui, on a le droit. Sur le site Autobiosphère, Hélène Gefstein, qui écrit une très belle critique de votre livre, écrit « Son preuve à lapin nous dit beaucoup sur la capacité de la littérature à arrondir les angles parfois tranchants de la vie. » Je trouve cette formule magnifique, « arrondir les angles parfois tranchants de la vie » pour s'y ménager un refuge un peu plus hospitalier. Vous l'avez trouvé, vous, ce refuge un peu plus hospitalier?
Oui, en fait, quand j'écris, c'est le seul moment où je suis vraiment... concentré, absorbé, où je ne pense qu'à une seule chose. Et il m'a fallu 22 ans pour le trouver.
Et donc vous allez continuer?
Je vais continuer, maintenant j'ai peur évidemment de...
Quand vous n'écrivez pas, vous avez peur de ne pas arriver à écrire?
Quand j'écris pas, j'ai peur de ne pas arriver à écrire. Quand j'écris, j'ai peur de plus y arriver. Enfin bon, c'est sans fin, mais j'espère que ça va...
En tout cas, vous êtes en train de préparer peut-être pas la suite, mais autre chose. Vous êtes encore trop dans celui-là et que il faut aller faire le tour des promos.
Je suis en train d'essayer de m'y remettre, on va dire. Mais j'ai mes petites idées déjà.
Le fait d'avoir réussi une fois, ça aide à se dire qu'on va y arriver à coup sûr, ou au contraire, c'est on a peur d'avoir perdu le feu sacré?
Non,
je ne sais pas.
Je pense que c'est de pire en pire, en fait.
Mais ça, je crois que dans la vie en général, c'est de pire en pire.
Ça, non, parce que
je crois qu'on a fait l'émission la plus optimiste de l'année.
Non, parce que le premier, bon, on n'y croit pas, donc je sais pas, peut-être qu'on se laisse aller, alors que le deuxième, on a peur de faire moins bien, de faire la même chose, c'est surtout ça.
Vous avez eu du mal à trouver un éditeur, parce que c'est un sujet qu'on aborde souvent.
J'ai du mal, je sais pas, j'ai beaucoup attendu, beaucoup actualisé mes mails 1000 fois par jour, et finalement...
Vous avez eu plusieurs bonnes réponses, souvent?
J'en ai eu deux.
Et vous avez choisi Gallimard, voilà. Donc. Et donc vous allez continuer avec eux?
Bah, je serais ravi, j'espère.
Quand même, juste un mot, est-ce que vous avez une écriture très travaillée? Vos sources d'inspiration, c'est le cinéma, c'est... Parce que souvent, on pense à des films en vous lisant, plus qu'à des livres.
Oui, vous parlez de Woody Allen.
Ouais, mais d'autres aussi,
ouais,
non?
Ouais, ouais.
Est-ce que c'est de votre génération, peut-être, qu'on voit plus de films qu'on lit de livres?
Peut-être. En fait, c'est oui, dans le sens du dialogue, vous voulez dire?
Ouais.
Je sais pas, parce qu'en même temps, c'est vraiment...
La situation, le sens de la situation.
C'est dans la situation et dans l'écriture, je pense que...
Après, c'est très écrit. Justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très écrit parce que c'est de l'humour, et l'humour, ça doit être écrit.
C'est ça, et en fait, même si parfois on a l'impression que c'est assez simple, en fait, c'est assez...
Il y a moins de subjonctif de l'imparfait que chez Proust.
Non, mais c'est quand même... Enfin, ça demande énormément de boulot d'arriver à faire une petite blague toute simple...
Alors, puisque vous êtes sur ça, je vais rebondir pour finir. Vous pourriez faire du stand-up et aller raconter ce texte devant un public. Vous auriez pu faire un texte de stand-up aujourd'hui. Mais là, c'est trop dur, ce serait trop violent d'aller sur une scène et de voir les gens en face.
Ouais, déjà, avant de venir ici, j'ai passé 4 heures à me morfondre.
Je suis désolé.
Non, ça m'attirerait, mais le stand-up, peut-être dans 10 ans, quand j'aurai résolu quelques problèmes.
C'est quelque chose que vous aimeriez faire?
Non. Enfin, c'est quand même avant. Ça n'a rien à voir. Enfin,
ouais, c'est un métier d'acteur.
C'est faire rire, mais. Il y a quelque chose de tellement particulier dans le fait de faire rire par les mots. C'est vraiment ça que j'aime.
Très bien. Ben, merci beaucoup. Je redonne votre nom. César Morgievitch, vous êtes l'auteur de Mon pauvre lapin. C'est un premier roman et ça a paru aux éditions Gallimard. Merci d'être passé par le studio. Ça va, vous allez bien?
Ça va, j'ai survécu. Alors,
vous avez... On va faire des exercices de respiration maintenant, vous allez voir.
Merci.
Merci beaucoup. C'était La Relève, une émission proposée, présentée par Christophe. La réalisation était assurée par Jonathan. Vous pourrez retrouver l'émission et toutes les précédentes ou presque le site web de Radio Campus Paris, rubrique La Relève. On est logique. Bonne soirée sur Radio Campus, c'est les vacances, c'est un peu particulier. Il y a vos émissions préférées. Bonne soirée.